Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors là, je fais le montage et ça, c'est la voix de Maëlle, une femme queer, trentenaire, à qui j'ai demandé de me parler du milieu sex-positif parmi la communauté LGBT.
En fait, je pense que ça, c'est une période d'un moment donné de ta vie et je pense pas que tu puisses toute ta vie être dans un truc sex-positif. Je pense qu'à un moment, c'est très bien parce que tu t'ouvres à plein de trucs, t'essayes, si t'as envie, c'est super. C'est quand même, ça concerne pas tout le monde. J'ai l'impression que ça concerne aussi beaucoup le milieu militant parisien et qu'à côté de ça, les gens, c'est pas forcément dans les problématiques, quoi.
Honnêtement, je savais pas trop où caler son interview parce que je la trouvais intéressante, mais ça ne s'intégrait pas bien au reste du podcast. Donc enjaillez-vous et ça commence ensuite.
Enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, moi quand je dis que je suis lesbienne, on m'a déjà fait une fois la réflexion de dire « Ah, t'es lesbienne, mais du coup tu prends pas en compte les personnes trans ». Ben en fait si, parce que dans ma définition de lesbienne, ça prend en compte un peu tout le monde. En fait, ça manque de légèreté toutes ces discussions. Mais c'est très difficile d'être léger avec ça quand on subit des choses toute sa vie, on subit des pressions sociales. C'est ça aussi le risque du militantisme, d'être trop dans un domaine et qu'avec des gens comme ça, c'est que du coup tout manque de légèreté, on intellectualise beaucoup les choses, on peut vite être un peu seul parce que si on est avec 10 personnes qui pensent exactement comme nous, c'est super, mais dès qu'on quitte ce milieu-là, on parle toujours comme si on était dans ce milieu-là, sauf que les gens sont loin de tout ça. Du coup, il faut s'adapter aussi un peu. C'est pour ça que je pense que c'est bien de prendre du recul et de ne pas rester enfermé dans le milieu militant. C'est super important, mais il faut prendre du recul et il faut prendre les choses avec plus de légèreté, même si c'est extrêmement difficile.
Le sexe positive, c'est un mouvement qui promeut une sexualité libre, exempte de jugement et où le consentement est au cœur de tout. Depuis mon adolescence, je lis tout à ce sujet. Et depuis ma majorité, je côtoie des gens du milieu BDSM ou des partouzeurs se disant activistes sexe positive. Au début, je trouvais que cette manière ouverte d'esprit d'aborder la sexualité était vraiment cool. Je ne sais pas quand j'ai commencé à me questionner un peu plus sur les limites de cette philosophie. Je me souviens des accusations de viol envers une personne qui prêchait le consentement, c'était il y a 2 ou 3 ans. Je me souviens aussi d'avoir fait ce podcast l'année dernière, d'un air désinvolte, sur les gangbangs.
On est vraiment dans un trip soumission, hein, pour ceux qui posaient la question okay. Au départ. Elle veut vraiment y aller, hein, donc
on soumet.
Plus je repense à ce podcast, plus je me pose des questions sur le résultat que j'ai fourni. Quand un organisateur m'a dit en off, quelques semaines plus tard, que la plupart des femmes qui viennent avaient été abusées dans leur jeunesse, je me suis questionnée sur ce côté soi-disant si safe dans ces scénarios sexuels.
En fait, j'ai réagi comme ça parce que j'ai vécu un truc dans ma jeunesse qui n'est pas très fun. Et en fait, c'est exactement les mêmes gestes.
Mais les problèmes rencontrés au sein des communautés dites sex-positives sont souvent bien plus subtils.
Salut Julie.
Salut Anouk.
Comment ça va ?
Ça va très bien, il fait beau.
On est dans un petit parc, ça fait du bien.
Julie me l'explique. Elle a créé en 2010 Jeunesse Parisienne Kinky, un groupe dédié à la découverte du BDSM pour les 18-35 ans.
J'ai commencé à m'y intéresser parce que mon copain était dedans. Enfin, il s'intéressait au BDSM de manière privée, on va dire. Et que Je cherchais des infos sur ce que c'était, comment ça fonctionnait et tout, parce que ça me faisait un peu peur au début. Et je suis tombée sur FetLife. FetLife, c'est un réseau social de gens attirés par une sexualité alternative. Et du coup, j'ai eu plein d'infos d'un coup dans ce forum où il y avait assez peu de communautés françaises. Moi, j'habitais sur Bordeaux à l'époque. Et voilà, et donc en bougeant sur Paris en 2010, je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté qui existait. Mais qui était plus âgée que la mienne et que toute la communauté jeune, on va dire entre 18 et 35 ans, n'était pas très représentée et puis avait du mal à se réunir. Voilà, donc on a créé avec mon copain un groupe sur ce site parce que voilà, on se disait qu'on voulait parler avec des gens qui avaient notre âge et qui n'allaient pas nous apprendre la vie. Qui n'allait pas nous dire « Ah, mais moi, ça fait 20 ans que je fais du BDSM, j'ai connu les années 90 où c'était interdit, personne n'en parlait. » Non, on voulait découvrir ensemble.
Quand tu as créé la communauté que tu as créée avec ton copain, est-ce que tu avais un peu l'idée en tête de promouvoir une certaine idée de sexualité positive ? Est-ce que c'était une expression que tu connaissais ?
C'était moins en vogue que maintenant. Comme terme, mais oui, c'était une idée de, on va dédramatiser en fait ce truc là parce que quand on est jeune et qu'on commence là-dedans, toutes les images qu'on a, c'est quelque chose de caché, c'est une sexualité un peu honteuse, cachée, alternative, avec très noire en fait, enfin très très dark, voilà. Et nous, on voulait quelque chose de plus joyeux. Dans les rendez-vous qu'on faisait ou dans le principe du forum, ben, on posait des questions sur des questions qu'on se posait. Et puis, si les gens ont envie de faire des trucs, et ben, ils le font. Mais s'ils n'ont pas envie, ben, ils peuvent discuter. Voilà. Les limites, c'est que, comme toute communauté, on tourne très vite en vase clos. Donc, on croise souvent les mêmes personnes. Et il y a des histoires qui se créent entre les gens. Des histoires de cul, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, tout ça. Donc ça a un très bon côté. Puis ça a un mauvais côté où dès que ça se défait, dès qu'il y a des cancans, des choses comme ça, ça tourne en rond. Et du coup, il y a des réputations, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Et puis ce côté un peu de... Comme c'est une sexualité positive, comme c'est... tout le monde parle de cul... les gens expérimentent entre eux, etc. Il y a un peu cette sensation d'aller dans un vivier de proie, mais de potentiel, voilà, je dirais. Et moi, j'étais en couple. Je n'étais pas dans une idée de polyamour ou de quoi que ce soit, de couple ouvert, machin. Donc, être perçue comme... une potentielle par tout le monde parce qu'on est dans une sexualité libérée, c'est un peu fatigant parce qu'il faut toujours remettre les pendules à l'heure et dire genre ouais alors non, on s'écoule, on discute, éventuellement on joue, mais moi je suis pas du tout intéressée par j'ai pas envie de niquer quoi, enfin genre voilà. Et il faut le dire à chaque fois et parfois avec les mêmes personnes, dire non, je n'ai toujours pas changé de statut et je ne suis toujours pas intéressée. Voilà, et puis bon, bah, comme dans toutes les communautés, il y a des gens toxiques. Et du coup, comme c'est une petite communauté avec des événements où les gens se retrouvent tout le temps, il y a des fois des gens, on n'a pas envie de les voir et c'est un peu fatigant. J'ai pas envie, alors j'ai pas spécialement envie de citer de nom.
Non,
j'ai pas de. Pas, voilà, ces gens font bien leur vie et puis tout le monde s'en fera son idée. Mais des gens qui ont exploité émotionnellement leur partenaire, qui pompent l'énergie quand on est avec eux, on est fatigué quand on les a vus, etc. Enfin, les vampires, entre guillemets, les vampires énergie. Se réclamer d'être, je sais pas moi... super féministe, sorcière, hyper égale, transgenre, machin, enfin, fluide et tout, et qui en fait vont être hyper sectaires ne vont pas du tout comprendre que des gens ont besoin de temps pour comprendre aussi leur démarche et pouvoir parler avec eux en étant inclusifs à leur tour, qui vont être dans constamment de la confrontation de leurs idées, etc. Alors, du coup, c'est bien d'être politique, mais c'est un milieu où les gens se découvrent en général et arrivent d'un milieu très mainstream et ils savent pas, en fait. Ils n'ont pas encore défait les codes, ils n'ont pas encore déconstruit tout ça. Et du coup, ils se retrouvent projetés avec des gens qui leur disent « Non, mais toi, de toute façon, t'as un discours de personne mainstream, tu comprends pas, machin. » Et ça, c'est compliqué, en fait. C'est... on va dire la positivité dans le mauvais sens, c'est que ces gens-là n'arrivent plus à expliquer leur discours pour des personnes qui déboulent, en fait, qui débarquent là et qui ne connaissent rien. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Puis après, ouais, j'ai eu des rendez-vous avec des gens que je pensais être des amis et en fait, je me rends compte que tout ce qui, enfin, le but de cette soirée ou de ce moment passé ensemble, c'est qu'en fait, qu'on nique. Et du coup, on en se retrouve encore dans ce... Enfin, je me suis retrouvée dans ce truc de devoir dire « Bon, bah écoute, je dois rentrer chez moi. Ouais, c'était sympa, machin. » Et j'ai plus du tout envie de voir ces personnes. Parce que je me dis, mais je vais... Je bataille à chaque fois pour expliquer que j'ai... Bah non, en fait, je suis très contente de les voir parce que c'est des personnes avec qui on a des conversations qui sont intéressantes, qui sont intelligentes. Mais qui sont dans une recherche de partenaires, de sexualité constante qui est fatigante, quoi. Et voilà, en fait je coupe les ponts au final, il y a des gens que j'ai plus envie de voir et puis après j'apprends qu'en fait ils ont fait ça avec plein de gens, qu'il y a plein de gens qui se sentent mal à l'aise avec eux et puis je me dis ce truc là que j'ai ressenti à ce moment là où je me suis dit mais non, il faut rester positive, c'est moi qui me sens toujours agressée et tout, alors qu'en fait non, c'est des gens hyper tactiles, hyper avec d'autres manières, et en fait c'est compliqué,
Ouais, des gens qui, sous prétexte que t'es dans cette sexualité positive, ça veut dire que t'es ouverte à toutes les propositions, quoi.
Voilà, c'est ça. Et non, en fait, parce qu'on n'est pas attiré par tout le monde. C'est un milieu où il y a beaucoup d'intimité. C'est compliqué de poser des limites claires et de ne pas avoir à le répéter tout le temps et que ce soit fatigant.
Le consentement, c'est vraiment un mot qui m'agaçait à un point infini quand j'écrivais des articles sexualité sur le site mademoiselle.com. Si j'oubliais d'en parler dans un article sexo, je savais que j'allais me manger des commentaires me remontant les bretelles. Pourtant, même si je trouvais ce concept super important, j'en voyais déjà les limites. Par exemple, j'ai déjà consenti à faire l'amour, alors que j'en avais pas envie. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de grave, j'étais d'accord avec ça. Mais je me demande si c'est vraiment la sexualité que j'ai envie de promouvoir.
En fait, c'est très séduisant le mouvement sexe positif parce que y a quand même encore des injonctions aujourd'hui aux femmes où on devrait pas aimer le sexe. Et donc on se dit, mais moi j'ai le droit d'aimer le sexe. Donc c'est en fait, quand on te dit le sexe c'est positif, on te dit, bah oui, c'est forcément une bonne chose. Mais le truc, c'est que face à un désamour du sexe, en fait, ce qu'on nous y oppose, c'est l'obligation de tout aimer, genre toute pratique, y compris toutes les pratiques violentes en fait.
Et de tout essayer, parce que sinon on est comme les puritaines.
Ava et Laurine font partie du collectif nommé Elles aiment ça. Elles se disent féministes et ont un regard très très critique sur la mouvance sexe positive. J'ai de très nombreux désaccords avec elles, mais comme je leur ai dit, je pense qu'il est intéressant d'entendre leur point de vue.
Alors moi du coup je m'appelle Ava et j'ai travaillé en tant que performeuse burlesque pendant quelques années, maintenant j'ai une trentaine d'années. Avant, j'avais un blog sexe positif pendant quelques années aussi. Et aujourd'hui, je suis complètement sortie de ce milieu-là et je suis secrétaire.
Je m'appelle Laurine, j'ai fait des études de sociaux et aujourd'hui, je travaille dans une association d'aide aux victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Que vous dire d'autre ? J'ai fait partie des milieux sexe positif aussi et j'en suis aussi sortie à l'heure actuelle. Alors moi, en fait, je dirais que ça s'est fait progressivement. Je suis rentrée dans les milieux féministes quand j'étais à la fac. Il y a vraiment eu un basculement après une série de relations dans lesquelles j'ai subi des violences, notamment des violences sexuelles. Et où il y a vraiment eu un basculement à ce moment-là dans ma tête où je me suis dit ok, donc si ce que vous voulez, c'est mon cul, maintenant, il va falloir payer pour l'avoir. Hein, et vous n'aurez plus jamais le reste.
Quand tu dis payer, c'est-à-dire c'est de la prostitution ?
Oui, oui. Oui. Et en particulier, là où moi j'ai trouvé à la fois une forme de refuge, de réconfort et d'illusion de contrôle, ça a été en tant que domina, en fait. Ça m'a pas duré très longtemps, parce que j'avais l'impression d'avoir du pouvoir, mais qu'en fait j'étais en train de me faire entuber quand même. En particulier, j'étais déjà précaire à l'époque. Et en gros, les moments où ça se voyait trop et que j'étais plus assez dans le jeu, que cette espèce de truc où j'avais quand même besoin de thunes se voyait trop, là, les violences et le machisme, enfin, la misogynie ressortaient, quoi, en gros. Et je dirais que ça a été le début de ma sortie du milieu sexpositif et où j'ai commencé à m'interroger sur tous les trucs qui jusque-là m'avaient été présentés comme étant de l'empowerment, etc. etc.
Moi, je pense que je me suis posé plein de questions assez jeunes sur le sexe et le genre. Et en fait, je pense que je suis devenue sexpositive parce que c'était le discours dominant et que c'était le seul qu'on m'a présenté. Et puis on m'a présenté aussi tout ce qui était... le fait de dépasser des limites et d'aller vers la violence sexuelle comme quelque chose de très subversif et d'épanouissant pour les femmes. Et c'était cool, en fait. Et en fait, je me suis retrouvée en couple avec un mec qui, lui, était vraiment dans le milieu du BDSM. Et en fait, c'était quelqu'un qui fait des conférences sur le consentement, qui, en fait, de dehors... alors, on imagine souvent le BDSM comme des gens, ils sont habillés tout en noir, avec des clous, des fouets, des machins, des bidules. Et en fait, moi, ce milieu-là, il m'a été présenté par des gens qui sont véganes, qui parlent tout le temps de communication non-violente, qui adorent les licornes et qui mettent des paillettes, et qui se présentent comme des bisounours, et c'est les gens les plus gentils de la Terre. Et on m'a présenté, par exemple, le fait d'être encordée dans des lieux comme Place des Cordes à Paris, comme quelque chose qui n'était pas du tout de la sexualité, c'était une exploration de son empowerment personnel. En fait, c'est pas du sexe, tu comprends, c'est plus du yoga, quoi. Et donc, je me retrouve dans ce milieu-là, et en fait, ce mec était super violent au lit, et il a commencé à me brutaliser et à me maltraiter sexuellement. Et en fait, c'était une période de ma vie où j'ai vécu des choses difficiles et j'ai pas réussi en fait à me défendre. Surtout que les moments où j'ai essayé de me défendre, déjà en fait il faisait des trucs super violents, donc ça me sidérait parce qu'il enchaînait en fait de la violence, très forte, avec des moments où il était hyper tendre et où il me demandait mon consentement pour des trucs ridicules à côté de ça. Donc par exemple, il me demandait mon consentement pour me faire des marques publiques d'affection, donc me faire un petit bisou en public ou me prendre la main, mais en revanche, il m'a jamais demandé mon consentement avant de me mettre des coups de poing. Et donc du coup, moi, je comprenais pas du tout ce qui se passait, mais en fait, j'ai commencé à aller mal et j'ai essayé d'appeler à l'aide en fait dans le monde dans lequel il était. Et en fait, toutes les personnes que j'ai essayé d'appeler à l'aide m'ont dit que c'était moi le problème. Et en fait, j'ai subi vraiment des procès, mais je peux pas les appeler autrement. Je suis passée devant des gens en groupe qui m'ont dit que en fait c'était moi qui les oppressais parce que j'avais un discours mononormatif et que j'avais un discours qui relevait du king shaming, etc., etc.
Petit point vocabulaire. Ava dit avoir été accusée d'être mononormative. La mononormativité, c'est le fait de penser que la monogamie est la seule norme et que les autres configurations de couple, comme le polyamour, sont déviantes. On l'aurait également accusé de faire du king-shaming, c'est-à-dire de juger son ex sur ses préférences sexuelles.
Et en fait, moi, j'essayais de dire « au secours, en fait, je me fais taper dessus ». Et en face, il y a des personnes qui m'ont dit « oui, mais c'est toi qui es maltraitante ». J'ai commencé à avoir des angoisses très, très fortes. Je commençais à avoir peur de tout. J'avais peur de prendre le métro, j'avais peur de sortir de chez moi, j'arrivais plus à respirer. Jusqu'au moment où j'ai fait... je me suis retrouvée à l'hôpital, aux urgences, parce que j'ai fait une décompensation anxieuse. Et en fait, on m'a diagnostiquée avec un syndrome de stress post-traumatique sévère. Et en fait, là, j'ai dû commencer une thérapie d'urgence pour comprendre ce qui m'est arrivé. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais une femme battue.
Et ça a été hyper dur de me rendre compte de ça, parce que ça collait pas du tout avec l'image que j'avais de moi-même. Enfin, j'étais quand même quelqu'un qui prenait la parole sur les réseaux sociaux pour dire « Ouah, le sexe libéré, c'est merveilleux !» Et que, en fait, j'avais l'impression d'avoir une connaissance de mon corps hyper bonne et que j'étais hyper, hyper libérée sexuellement. Parce que, par exemple, bah, j'ai aucun problème à avoir des orgasmes et j'ai aucun problème à, en fait, à avoir du plaisir. Mais en fait, à côté de ça, ben, j'ai pas réussi à me défendre d'un homme violent. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à vraiment interroger le vocabulaire, les méthodes du sexe positif. Au moment où j'ai porté plainte contre lui, et au moment où j'ai porté plainte contre lui, j'ai vécu du cyberharcèlement de la part du milieu sexe positif. J'ai vécu. On m'a traité de folle, on m'a traité de perverse narcissique, on m'a traité de manipulatrice. En fait, tous les trucs qui correspondent à la culture du viol, ils me les ont sortis, alors que c'est des gens qui se disent féministes. Et je me suis dit, mais elle est où la merde, là ?
On vit toujours dans le patriarcat. Et en tant que femme, sauf quelques rares exceptions, mais globalement, on n'a pas été beaucoup valorisée dans notre vie. Et qu'une des manières... d'avoir une espèce d'ersatz d'estime des mecs, c'était de faire sauter toutes ces espèces de, enfin voilà, toutes les frontières qu'on pouvait avoir pour leur prouver que on était forte, qu'on n'avait pas froid aux yeux, qu'on était prête à explorer, que c'était une manière de pas être méprisée par les hommes, quitte à me faire du mal à moi, parce que moi je voyais l'énergie que ça me demandait, j'y prenais pas de plaisir, enfin je ressortais de ça extrêmement mal, honteuse, coupable, je ne prenais pas du tout de plaisir à ça en fait. Mais vraiment c'était très présent dans ma démarche d'essayer de regagner de l'estime des mecs de cette manière-là.
Je pense que le cool, c'est un outil très fort d'oppression qui fait qu'on n'a pas eu besoin, même s'il y en a qui ne se sont pas gênés, mais de me forcer à le faire. Parce que j'avais vraiment intégré que si je ne faisais pas ci, ça, ça, bah, finalement, les mecs, ils iraient trouver une meuf plus cool ailleurs, en fait.
Quelles sont les lignes politiques de votre collectif Elles aiment ça ?
Le collectif Elles aiment ça est né de groupes de parole entre femmes qui viennent du milieu du BDSM et de la prostitution, principalement, du porno aussi. Donc nous, on est un collectif, on est avant tout un collectif de parole. C'est-à-dire que notre première action, c'est de nous faire du bien à nous en parlant entre nous, parce qu'on a un gros travail de réparation de trauma à faire entre nous, et on n'avait pas d'espace pour en parler, donc on en avait besoin d'un, donc on l'a créé.
Alors, on s'est interrogé sur la notion de consentement, qui est aujourd'hui devenue le mantra dans les milieux féministes, dans les milieux de gauche et dans les campagnes contre les violences sexuelles. On a interrogé en fait les limites de ce concept-là parce que, de notre point de vue, aujourd'hui, c'est le seul critère qui est utilisé pour juger du caractère violent ou pas d'un rapport sexuel, du caractère problématique, de est-ce que c'est critiquable ou pas, est-ce que c'est traumatisant ou pas. Et on s'est rendu compte que ça évacuait en fait tout un tas de problématiques qui font que le consentement formel ne fait pas tout et qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver à dire oui à quelque chose, soit dont on n'a pas envie, soit dont on peut avoir envie mais qui ne va pas nécessairement nous faire du bien. Et qu'il y a un contexte en fait, qui fait qu'une personne va être amenée à dire oui, en particulier sur ces questions-là. Donc il y a un petit peu ce qu'on a dit, nous, que pour avoir de l'estime, pour ne pas se retrouver mise de côté, lourdée comme une vieille chaussette, etc., on repoussait nos limites. Et quelque chose qui n'est jamais posé, en tout cas sur les rapports sexuels entre adultes, c'est pour qu'il y ait consentement. Il y a le coût du non, en fait, ça ne s'est jamais posé. C'est quoi ? Enfin, voilà, pour que le consentement il soit valide, il faut que le coût du oui soit à peu près équivalent au coût du non. En fait, au-delà de poser la question de qui propose, qui dispose, parce qu'on est quand même toujours dans cette dynamique-là, qui est quand même dans le genre vieille France traditionnelle, vieux machiste... ça se pose là, mais il y a
parce qu'en gros, on se pose la question du consentement des femmes, mais on se pose pas la question du consentement des hommes, parce qu'en fait, les hommes, c'est ceux qui proposent. Et en fait, le consentement, pour nous, ça nous semble vraiment très problématique parce que ça pose la question de, est-ce que la femme, elle est d'accord ou pas pour accepter ou subir ou prendre du plaisir à ce que propose l'homme ? Mais en fait, on pose jamais la question du désir de la femme dans cette question.
Et un truc qui, moi, me parle pas mal, c'est le soi-disant consentement au recueil des données sur Internet, où 8 fois, 20 fois, 50 fois par jour, on clique sur « j'accepte ». Et donc, effectivement, il y a un consentement qui est formel. Mais c'est quoi le coût de refuser ? C'est qu'on ne peut pas avoir accès à un paquet d'informations, par exemple, en la matière.
Sur le contexte du consentement, poser la question de qui propose à qui, mais aussi quelles sont les raisons qui peuvent amener une personne à ressentir de l'excitation sexuelle quand on la frappe ou quand on l'insulte. Qui est surreprésenté parmi les populations qui trouvent excitant de frapper ou d'insulter leur partenaire ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que disent les insultes en question ? Et même quand les insultes, elles sont données pour les catégories de la population opposées. Parce qu'en fait, même quand on insulte des hommes, on les insulte avec des mots qui sont insultants pour les femmes.
On essaie vraiment de nous vendre que c'est une libération de la honte. Ça aussi, dans les choses qui sont attirantes, ça va être une libération de la honte. Et ce que tu dis, c'est que c'est pas tant une libération de la honte qu'une érotisation de la honte. Et qui, pour le coup, est vachement visible dans les insultes qui sont mobilisées. Dans « t'aimes ça, salope », etc. C'est derrière... c'est pas du tout une émancipation, c'est vraiment utiliser ça comme ressort d'excitation dans le rapport.
Sur les raisons du consentement, pour moi c'est difficile de parler de ça sans parler du psychotrauma. C'est quelque chose dont je pourrais parler assez longuement parce que j'ai été diagnostiquée donc avec un syndrome de stress post-traumatique et j'ai vécu différents stades de dissociation dans ma vie. Maintenant je suis en thérapie depuis 2 ans, ça m'aide beaucoup à comprendre ces mécanismes là, ça m'aide à comprendre ce que j'ai trouvé dans la violence sexuelle, ce que ça m'apportait en fait par rapport à des mécanismes psychiques. En fait, rechercher de la violence sexuelle, c'est ce que les psys appellent une conduite dissociante. Donc pour le faire très rapidement, c'est ce qui produit de la dopamine et de l'endorphine dans le corps de façon à soulager tes angoisses, pour le dire très rapidement. Et en fait, les conduites dissociantes, il y en a toute une palanquée. Il y a le BDSM, mais il y a aussi les sports extrêmes, ou l'automutilation, ou les troubles alimentaires.
Est-ce que ça veut dire que, selon vous, les femmes qui cherchent à se faire dominer dans une relation BDSM sont soit des personnes qui ont vécu des traumatismes, soit des personnes qui cherchent à faire du mal, soit les deux ?
Bah moi, pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'exemple inverse. Après, en même temps, vu le nombre de femmes qui ont vécu des violences sexuelles dans le monde et dans la société dans laquelle on vit, déjà, en fait, on est beaucoup. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient ça comme passif.
Je pense qu'il y a un truc aussi, moi, de mon souvenir, qui est hyper présent dans ces milieux-là, c'est la honte d'être une victime. Et là, je me dis, en nous écoutant, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, mais vous victimisez ces femmes-là, vous leur laissez pas... » Enfin, voilà, vous vous rendez pas compte qu'elles ont une agency, qu'elles font des choix, etc. Bon, alors déjà, c'est quoi la marge de nos choix quand on pense... Enfin, voilà, moi, par exemple, le mécanisme qui a été le mien, de me dire que de toute façon, je vais être violée et traitée comme de la merde, autant... y gagner quelque chose financièrement, comme ça après je pourrais mener des projets qui me font plaisir. Et sur le mot victime, enfin je pense qu'il y a vraiment un truc aussi à aller décortiquer sur la honte autour du mot victime, parce que en fait le contraire de victime, c'est pas forte ou fort. L'antonyme de victime, c'est agresseur en fait. Et donc être victime, c'est pas du tout être synonyme d'être faible. Je pense que c'est vraiment un truc important.
Est-ce que cela veut dire, donc, selon vous, que les hommes qui souhaitent dominer ou qui dominent directement sont tous des potentiels agresseurs, voire des agresseurs ?
Oui.
Alors, moi, j'ai eu un raisonnement un peu... Enfin, je me suis dit, on va partir du principe, OK, selon lequel il y aurait des sadiques éthiques. Bon, alors déjà, juste quand on le verbalise, je veux dire, voilà, c'est bon. Mais admettons qu'il y ait des sadiques éthiques qui prennent plaisir... juste qui compartimentent complètement leur cerveau, leurs valeurs, leurs ressentis, et qui ne ressentent du plaisir à dégrader des femmes, on va rester sur cet axe-là, que dans le sexe. On dit, ok, donc admettons, bon, il y a ces sadiques éthiques, mais vous voyez un peu le cadeau qu'on serait en train de faire aux sadiques salauds. Comment ils vont sauter sur l'occasion en disant, oh là là, il suffit plutôt que d'aller le faire à ma femme qui n'en a pas, enfin voilà, qui est capable de mettre des limites ou d'agresser dans la rue, machin, il suffit que je rejoigne un milieu dans lequel je vais amener des femmes à consentir et j'aurai plus aucune possibilité d'être critiquée. Et que, admettons que le bon sadique, lui, une fois qu'il a vidé ses couilles, il redevient une personne formidable et complètement respectueuse des femmes. Le mauvais sadique, lui, par contre, il va profiter du milieu pour repousser les limites en permanence, et à un moment donné ou un autre, il va outrepasser le consentement. Sauf qu'en plus, on lui aura filé tous les outils pour qu'elle puisse jamais porter plainte, parce que elle a dit qu'elle était d'accord. Elle est venue dans un milieu où on va dire, mais attends, c'est pas la norme de te faire frapper. Là, tu te plains qu'on t'a violenté. Quel est le rapport? Elle est où ta cohérence?
Une fois, j'ai rencontré un mec qui m'a demandé de le dominer. Et en fait, lui, ce qui le faisait kiffer, selon ce qu'il disait, c'était vraiment d'être frappé, insulté, humilié, etc. Et en fait, en discutant 20 minutes avec ce mec, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait subi d'horribles maltraitances de la part de sa mère. Franchement, même en sachant que c'était un truc qui pouvait lui causer du plaisir, moi, j'étais incapable de faire ça, parce que ça voulait dire que symboliquement, je prenais la place de la personne qui l'avait maltraité pendant des années. Et en fait, moi, les mecs qui m'ont maltraité, ils n'en avaient rien à foutre. Apparemment, ça leur a jamais posé problème de réitérer les traumas que j'avais vécu dans mon passé. Et ils étaient au courant des traumas que j'avais vécu dans mon passé. Donc, il y a un moment, il faut se poser la question. Enfin, genre, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quoi? Et notre but, c'est jamais de shamer les femmes, mais c'est de shamer la normalisation et l'érotisation de la maltraitance des femmes.
Et du coup, quelle solution vous proposeriez pour une sexualité plus saine?
Je ne sais pas si j'ai envie d'apporter de réponse générale à cette question, ou même si je suis en mesure de le faire. C'est quelque chose dont on discute beaucoup entre nous dans le collectif. Et c'est une question compliquée. Je vais répondre juste pour moi, du coup. Et je vais dire que moi, aujourd'hui, je galère encore, parce que je souffre encore d'excitation traumatique. Mais j'en parle avec ma thérapeute pour comprendre pourquoi, alors que j'ai été une enfant maltraitée puis une femme maltraitée, bah quand je vois une femme être maltraitée, ça m'excite, ça excite mon corps. Et on parle beaucoup de ça dans le collectif, et jusqu'à aujourd'hui on en avait honte, parce que la seule explication qu'on nous donnait dans le milieu sexpositif, c'était que en fait, au fond, on aimait ça, et que ce qui faisait kiffer les meufs, c'était de se faire insulter et taper dessus, que c'était dans la nature des femmes, que c'était la nature du sexe. Mais plus je travaillais là-dessus en thérapie, sur la séparation de l'amour et de la violence, sur l'identification de ma jouissance et pas de celle de l'agresseur, et plus j'arrive à accéder à une sexualité que je trouve vraiment libre, en fait, et où j'ai l'impression que les fantasmes, c'est les miens, et c'est pas ceux des hommes, et c'est pas ceux du porno, et il y a une place pour l'estime de moi et pour l'estime de l'autre. Et pour l'instant, je galère encore, mais c'est de mieux en mieux, et en fait... je commence vraiment à avoir des rapports sexuels qui me rendent heureuse et épanouie et qui sont cohérents avec ma manière de voir le monde et avec mon féminisme. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi.
Comme dit avant leur interview, je ne suis pas d'accord avec de nombreux propos tenus par Ava et Laurine du collectif Elles aiment ça. De par mes rencontres, j'ai également observé que les femmes dans le BDSM hard ont souvent vécu des violences dans le passé. Mais ce n'est pas une preuve, à mes yeux, que cela perpétue le comportement maltraitant, qu'elles se font du mal comme on pourrait le faire via des scarifications. Au contraire, j'ai majoritairement entendu des témoignages expliquant que ces mises en scène sexuelles permettent de rejouer leurs histoires et peurs afin de cette fois reprendre contrôle dans leur corps et donc de se faire du bien. Et comme je ne pouvais pas finir sur ça, je me suis demandé quelle solution pouvais-je trouver aux limites de ce milieu sex-positif. C'est là que ma route a croisé celle de Maëlle.
Il y a plusieurs choses qui sont dangereuses, on va dire, dans le milieu sex-positif, ou en tout cas qui peuvent amener à des ruptures de consentement. Il y a le fait de ne pas savoir exprimer le non, et il y a le fait de ne pas savoir entendre le non. Et à ce niveau-là, le tantra fait beaucoup travailler les deux. C'est ça que je trouve hyper positif.
Maëlle est chargée d'études le jour et organise des ateliers érotiques, souvent liés au tantra, la nuit. Je me suis dit qu'en creusant, c'est peut-être là qu'on peut trouver une certaine solution.
Donc le tantra, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est d'être beaucoup plus à l'aise dans la relation à l'autre. Et beaucoup plus juste avec moi-même aussi. Je pense que c'est surtout ça. Je dirais que le tantra, c'est vraiment justement l'art de rentrer en relation avec l'autre et l'art de mettre de la conscience, en fait, sur sa relation à l'autre, et notamment dans la relation intime, qui peut passer par le non-verbal ou qui peut passer par ce qu'on dit, par le verbal.
Concrètement, comment ça se passe?
Alors très concrètement, généralement c'est des petites, ce qu'on appelle des structures. Donc c'est comme des mini-exercices qu'on va faire à deux ou qu'on va faire en groupe. Il y a beaucoup de, danse notamment, il y a beaucoup de, contact par le regard. C'est la deuxième chose qu'on dit souvent, le tantra, les gens se disent « ah oui, c'est faire l'amour en se regardant dans les yeux ». C'est pas tout à fait faux, dans le sens où, en tout cas, on considère que le regard, c'est un mode d'entrée en relation et qu'on peut mettre de la conscience sur ce mode d'entrée en relation également. Alors, par exemple, une structure de tantra toute simple, ça peut être justement de regarder quelqu'un, la même personne, dans les yeux pendant 30 minutes. Ça, ça peut être une structure de tantra.
30 minutes ?
Ça peut être 30 minutes, ça peut être 5 minutes.
Et en parlant ou sans parler ?
Sans parler.
Ah, c'est long ?
Ça peut être long, ouais. Ça peut être long. Ça peut être hyper profond. Moi, je me suis fait une amie comme ça, une fille que j'ai rencontrée en soirée tantra. On s'est regardé dans les yeux et je me suis dit, je sentais tellement de bienveillance en fait dans son regard. Et après, on s'est revus, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs et c'était super cool. Mais ça peut, alors par exemple, une structure que j'aime beaucoup, qu'on a fait récemment en tantra autogéré, où on s'est mis par quatre, et en fait, dans le groupe de quatre personnes, à chaque fois, il y avait une personne dont les trois devaient prendre soin. Donc, elle devait dire, par exemple, là, pendant cinq minutes, tout le monde va s'occuper, toutes les personnes du groupe s'occupent de moi, et moi, j'ai envie, par exemple, j'ai envie d'un massage, ou j'ai envie qu'on me dise des mots doux, ou j'ai envie qu'on prenne soin de moi, ou j'ai envie qu'on me fasse un câlin, enfin, voilà. Et du coup, en fait, à chaque fois, chaque personne du groupe, on mettait de l'attention sur elle, on faisait attention à elle, encore une fois, en respectant ses propres limites. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas envie de faire un massage à la personne ou j'ai pas envie de lui toucher une certaine partie du corps, je suis pas du tout obligée de le faire.
Et ça se passe toujours bien ?
Alors, ça se passe toujours bien. Après, c'est plus ou moins profond, je dirais. Il y a des fois où ça peut être vraiment hyper, hyper intense, hyper beau. Et puis, il y a des fois, peut-être, où la magie prend moins. Mais... je pense que l'avantage du tantra par rapport au monde de la sexualité, c'est que c'est des relations qui sont quand même beaucoup moins impliquantes. C'est-à-dire que très souvent, il y a un cadre de non-sexualité qui est posé. Il y a même parfois des cadres de non-nudité qui sont posés. Donc en fait, c'est plus difficile d'aller passer les barrières de l'autre. Et en même temps, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'attention qui est mise dans le tantra sur le fait de savoir poser ses limites, sur le fait de savoir écouter les limites de l'autre. Donc justement, dans les structures, il y a une structure de tantra qui est quelqu'un vient te voir et te demande s'il peut te faire quelque chose et tu dis non. Tu dis non, tu dis non, tu dis non, il te demande 20 choses et tu dis non 20 fois. Et en fait, tu apprends à trouver ce non qui est un vrai non, qui n'est pas un non en rigolant, qui n'est pas un non non mais je te souris en même temps, qui est un vrai non. Et ça, c'est un vrai travail. Et je pense que le fait de pratiquer ça et d'être dans un contexte qui met de l'accent là-dessus et qui met de l'attention là-dessus fait que moi, de ce que j'ai vu, j'ai jamais vu de gros problèmes en tantra, sachant que je veux pas dire qu'il peut pas y en avoir.
Et t'en as entendu parler ?
Dans le tantra, honnêtement, les choses que j'ai pu entendre en tantra, c'était par exemple, à la fin de la soirée, telle personne est venue me demander mon numéro, ça m'a dérangée. C'est-à-dire des personnes qui vont prendre ça pour des lieux de rencontre, notamment de rencontres amoureuses ou de rencontres voilà, qui vont avoir envie que ça dévie vers un contexte plus sexuel, par exemple. Mais je n'ai pas entendu parler, moi personnellement, de personnes qui auraient brisé le consentement de quelqu'un dans le cadre de la session de tantra.
Est-ce que c'est un truc que tu conseilles à tout le monde de pratiquer le tantra ?
Je pense que oui, dans le sens où il y a toujours quelque chose de l'ordre de rien n'est obligatoire. Donc en fait, c'est tout à fait possible de venir à une soirée de tantra et de faire aucune structure si tu as envie de faire aucune structure.
Mais alors quand on dit rien n'est obligatoire, tu vois, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Et effectivement, il y a plein de situations dans la vie où rien n'est obligatoire. En revanche, tu as beaucoup de pression que tu peux te mettre toute seule hein, en plus si tu ne fais pas les choses. Est-ce que c'est un comportement que tu peux observer ?
Je pense que ça peut arriver, effectivement. Et je pense qu'il faut en être conscient. Et c'est pour ça que je conseillerais plus justement des modes d'entrée en relation qui sont peut-être moins impliquants que de la sexualité ou même que de liquid love à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce milieu-là. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que déjà la sexualité avec une personne, même une personne qu'on connaît bien, même une personne avec qui on a de la sexualité depuis des années, on peut ne pas oser lui dire certaines choses. On peut ne pas, à ce moment-là, en tout cas, oser lui dire, ben là, j'ai pas envie que tu me touches le ventre parce que je me sens pas bien. Ou voilà, ça peut être difficile, déjà dans ces contextes où on est en confiance, où ça se passe bien, où on est avec une personne. Donc en fait, quand il y a beaucoup de gens, eh ben, la complexité est multipliée par le nombre de personnes qui est présente. Même si on met de l'attention sur qui participe, on ne peut jamais savoir exactement où les gens en sont dans leur capacité à entendre le nom et leur capacité à exprimer un nom. D'autant plus que c'est quelque chose qui est complètement variable, en fait. Et même, même moi, peut-être, je me réveille un matin, je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas ce que j'ai. Je vais avoir du mal à exprimer que je n'ai pas envie de quelque chose parce que ça me met mal à l'aise et qu'à ce moment-là, ça va être plus difficile pour moi. Et je pense qu'à ce niveau-là, le féminisme a fait beaucoup de travail de, justement... commencer à dire ben les violeurs c'est pas des gens dans la rue qui se baladent et qui prennent des femmes en camionnette, c'est aussi potentiellement ton mari qui t'écoute pas. Alors je genre beaucoup ce que je dis aussi pour des raisons factuelles qui sont qu'il y a plus de viols d'hommes sur des femmes que l'inverse, mais ça peut aussi s'appliquer à des femmes. Voilà, donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça reste des choses qui sont complexes, qui sont subtiles et auxquelles on n'a pas totalement accès en tant qu'organisateur. Au niveau du tantra, par exemple, ça reste assez peu impliquant. Ça peut être aussi impliquant que peut-être de la danse ou qu'un massage. Je dirais que c'est à ce niveau-là d'implication en général. Voilà, donc après, il faut s'écouter soi-même. Évidemment, si quelqu'un a un vrai blocage par rapport à quelque chose et ne se sent pas en confiance de le faire, ben, probablement qu'il ne faut pas que la personne le fasse. Mais je pense que globalement, c'est ouvert en tout cas à beaucoup de personnes. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je crois vraiment que la capacité d'écoute et la capacité de savoir dire non, c'est des choses qui ne sont pas innées, c'est des choses qui s'entraînent et c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Et j'ai quand même envie de terminer là-dessus parce qu'en fait, c'est tout le travail du tantra notamment, mais aussi des personnes qui animent les chatonnades. Ou voilà, c'est en fait de donner des clés aux gens pour qu'ils s'améliorent là-dedans et pour pouvoir entrer dans des relations qui soient de plus en plus complexes. Notamment, ça peut être des orgies si c'est le souhait de la personne.
Si je n'ai qu'une chose à retenir, c'est que le concept même d'un espace safe est presque impossible. Le consentement est important, mais il ne fait pas tout. La communication peut aider, mais elle n'est pas toujours évidente. Je n'ai pas forcément de solution à donner, si ce n'est qu'un conseil, peut-être un peu trop facile. Prenez soin de vous. De mon côté, le sexe positif m'a apporté beaucoup dans ma vie. Je ne serais aujourd'hui probablement pas journaliste sexualité sans la découverte de cette mouvance quand j'étais encore adolescente. Mais comme toutes les mouvances, elle comporte aussi ses limites, et il me semblait aujourd'hui important d'en parler. Merci pour l'écoute de ce podcast. Si vous voulez m'aider à grandir, laissez-moi des commentaires et 5 étoiles sur votre application de podcast. Par ailleurs, petite annonce, je suis passée sur une nouvelle plateforme de diffusion, Acast. De votre côté, ça ne change rien, si ce n'est que bientôt, vous entendrez des publicités en début et fin de mes podcasts. Je n'ai jusque-là jamais touché un seul euro sur les productions de ma chaîne personnelle, alors je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment une super nouvelle. Ici Anouk Perry, et je vous embrasse.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.